presidency will mark a new chapter in America's leadership on climate change that will strengthen our security and create millions of new jobs in the process. That will start with a federal cap.
C'est pas du vent, deuxième partie. La donne va changer aux États-Unis avec l'investiture de Barack Obama qui, depuis le mois de novembre, a annoncé en Californie un virage à 180 degrés sur la politique environnementale américaine.
Further, we'll invest $15 billion each year to catalyze private sector efforts to build a clean energy future. We'll invest in solar power, wind power, and next generation biofuels.
Avec nous en studio pour faire le bilan des années Bush et décrypter la nouvelle donne, Claude Henry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur à Columbia dans l'école des affaires internationales où Obama était étudiant et professeur à Sciences Po Paris.
Alors pour comprendre l'importance de ce changement qui doit s'opérer, il faut réaliser que nous sortons d'une présidence américaine qui a été perçue à l'étranger comme peu favorable à ses préoccupations environnementales. Face à l'urgence climatique, les pays industrialisés ont décidé de faire des efforts et ont eu beaucoup de peine à mettre en place le protocole de Kyoto qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais les États-Unis, qui étaient le plus gros pollueur parmi les pays industrialisés, n'ont pas voulu adhérer à ce protocole. Claude Henry, quel bilan faites-vous de la politique environnementale de George Bush?
Il n'y a pas beaucoup de choses positives à apporter à ce bilan. Il y en a une. George Bush a toujours été favorable aux réserves marines, pas aux réserves terrestres, qu'il a au contraire entamées par des droits de mine, des droits de prospection pétrolière et par la destruction des forêts. Mais il a créé deux des plus grandes réserves marines du monde et des plus riches, l'une en 2006 au large de Hawaï et l'autre en 2008, tout récemment, autour des îles Mariannes. C'est un point positif et je pense qu'il n'y a pas lieu de se moquer comme certains qui disent qu'il a voulu quand même laisser une petite virgule à son bilan positif du point de vue de l'environnement.
Mais le père comme le fils ont toujours été très proches des milieux pétroliers. Est-ce que ça explique un petit peu cette difficulté finalement à s'engager sur ce terrain de l'environnement?
Je pense que ça l'explique marginalement. Marginalement, parce que bien sûr, il y a une sensibilité dans la famille, et la sensibilité d'un président, je pense qu'on le verra avec Obama, est quelque chose d'important pour sa politique, si pas décisif. Mais je pense que ça explique aussi la facilité avec laquelle l'administration Bush a accordé des permis de prospection dans les terres en principe protégées de l'Ouest américain. Mais ça n'explique pas plus sa politique environnementale en général que ça n'explique sa politique en Irak.
Alors, la Californie, avec le gouverneur républicain Arnold Schwarzenegger, faisait figure d'exception sous l'ère Bush. Cet État était le promoteur d'une nouvelle politique très ambitieuse, notamment en matière d'énergie. Pour bien comprendre la réalité de cette politique, je vous propose d'écouter le reportage de Laurine Ortiz en Californie.
Des États-Unis, c'est une très forte urbanisation et des nuages de pollution qui brouillent le paysage. Las de ce gâchis environnemental, nombreux sont les Californiens qui, comme Diana Hoffman, dans sa maison isolée sur une colline, ont décidé d'agir.
Cette éolienne à elle seule devrait produire assez d'électricité pour réduire ma facture de 80%. En ce moment, elle tourne et vous pouvez constater qu'elle ne fait pas de bruit. Quand le vent souffle très fort, il y a un ronronnement. Là, écoutez, on l'entend, c'est un son léger. C'est pas comme le bruit que fait ce tracteur là-bas.
Diana, 61 ans, a une éolienne flambant neuve dans son jardin de Murrieta, situé entre Los Angeles et San Diego. Au milieu de cette campagne paisible, cette infirmière pour animaux estime que le respect de la nature n'a pas de prix, surtout quand il lui permet d'économiser quelques dollars.
Cette éolienne nous permettra de supprimer une facture qui sera sans doute plus élevée quand on sera à la retraite. Si on peut la réduire à un montant dérisoire, alors tant mieux. Pour nous, en temps normal, disons en été, quand on utilise la climatisation, une facture d'électricité s'élève à $150. Là, avec cette machine, on devrait pouvoir la ramener à $20. Ça rend la clim beaucoup plus abordable.
total, Diana a déboursé 8 000 $, somme qu'elle amortira en 5 ans, calcule-t-elle. Mais pas seulement économe, Diana est convaincue que ce mode de production est celui de l'avenir.
Je suis très écologiste. J'attendais vraiment de trouver le moyen d'avoir une source d'énergie individuelle moins chère que le solaire. Car le solaire, une famille simple ne peut pas se le payer. Vous savez, ça me coûterait 30 000 $. Et si beaucoup se mettaient aux énergies alternatives, ça permettrait de réduire graduellement notre dépendance au pétrole.
Depuis une dizaine d'années déjà, la Californie encourage les gens comme Diana à investir dans les énergies renouvelables, éolien et solaire en tête, grâce à des subventions et des crédits d'impôt. Une politique qui, 10 ans plus tard, a d'ailleurs fini par inspirer Washington. Il faut mettre à l'actif de l'administration Bush la création en octobre dernier, dans le cadre du plan de sauvetage de l'économie, d'un crédit d'impôt égal à 30% du coût d'un système éolien ou solaire. Une bonne nouvelle pour Diana qui déduira 2 500 $ sur sa prochaine déclaration d'impôt. Mais quand elle s'est lancée dans l'aventure, voici 2 ans, le rôle moteur de l'État et de son gouverneur, Arnold Schwarzenegger, n'a pas suffi.
Quand je me suis décidée à avoir cette machine, je suis descendue voir les gens de la mairie avec ma brochure. Je l'ai posée sur le bureau du responsable de l'aménagement et j'ai dit, vous voyez, c'est ça que je veux. Ils m'ont renvoyé un courrier en me disant non, tout simplement non. J'ai dit, mais pourquoi ? C'est ce que le gouverneur nous dit de faire, alors pourquoi ? Me dites-vous non ? C'est là que je me suis rendu compte qu'à ce niveau, ils ne disposaient pas de règlement.
Finalement, grâce à cette citoyenne ordinaire, qu'une loi existe désormais à Murrieta. De nombreux voisins lui disent avoir envie de l'imiter. C'est une aubaine pour Bob Hayes, nouveau businessman de l'éolien qui lui a fourni ses services.
We're growing at greater than 100% a year.
Fait plus que doubler chaque année. On voit de plus en plus d'entreprises. Donc on est très enthousiaste. Mais il faudra résoudre les problèmes d'aménagement du territoire et les barrières juridiques.
Logistical barriers.
Even during this economic recession.
Yes, especially.
Car il y a eu en plus l'effet incitatif des crédits d'impôt créés avec le plan de sauvetage de 750 milliards de dollars. Ça, c'est nouveau. Et c'est ce qui a décidé les clients hésitants. Beaucoup de nos acheteurs sont des particuliers qui vivent dans des ranchs ou bien des fermiers. Des gens qui ont beaucoup d'espace, on a aussi beaucoup de personnes qui vivent sur des surfaces plus petites et veulent des installations fixées au toit. Et puis certains demandent des turbines plus puissantes, ce sont des organismes commerciaux, par exemple des entreprises agricoles ou vinicoles.
Ces clients sont tout simplement dans l'air du temps. La Californie a adopté dès 2006 une loi de lutte contre le changement climatique, dont le plan de mise en œuvre a été adopté le mois dernier. Mais la Californie n'a pas attendu le Messie pour inscrire noir sur blanc sa volonté de réduire de 25% d'ici à 2020 ses émissions de CO2, pour les ramener à précisément 427 millions de tonnes. Laurine Ortiz, Los Angeles, RFI.
Claude Henry, malgré la politique fédérale anti-Kyoto de George Bush, certains États ont eu des politiques très ambitieuses, comme la Californie.
Très. Et ce reportage illustre bien à la fois le dynamisme individuel en Californie, le dynamisme politique de l'État, les réticences, comme partout ailleurs, de certaines administrations, en particulier de normalisation technique, et comment on peut néanmoins avancer. Le cas de l'installation de cette éolienne et puis de la loi qui a permis une plus large installation se situe dans un ensemble où vous avez aussi la reconversion des entreprises de la Silicon Valley vers des productions favorables à l'environnement, en particulier des cellules photoélectriques qui n'auront plus le défaut d'être trop chères comme on vient de nous l'indiquer. Okay. Mais il y a des limites fortes. Quand le dernier interviewé dit qu'ils n'ont pas attendu le Messie, ils ont rencontré le diable. Je veux dire par là que lorsqu'ils ont voulu voter, et ils ont voté certaines lois, et en particulier la loi qui devait limiter les émissions de CO2 des voitures admises à être immatriculées en Californie, l'administration Bush a tout fait et a réussi à bloquer devant les cours. Ça traîne depuis 6 ans, et tant que le pouvoir fédéral n'aura pas changé, des pans entiers de la politique californienne ne pourront tout simplement pas être mis en œuvre. Et c'est vrai pour d'autres États, eux-mêmes aussi pionniers.
Lesquels, par exemple ?
Pardon ?
Quels États ? Quels autres États sont pionniers ?
Pennsylvanie, Massachusetts, New Jersey, Oregon, il y en a une quinzaine qui, parfois même, ont anticipé sur la Californie. Le Vermont, le petit Vermont en est un exemple.
This one's dedicated to all the freaky people out there. All us lovely freaks and weirdos. We're just trying to make it through life, you know what I'm saying? Sometimes it's rough out there. Just try to keep a sense of humor. Try to stay human, you know what I'm saying? Starvation is a creation of the devil, a rebel. I'm bringing food to the people like a widow. Bringing flowers to a grave in the middle of the city. Isolation is a riddle. To be surrounded by a million other people, but feel alone like a tree in the desert. Dried up like the skin of a lizard, but full of color like the spots of a leopard. Drum and bass pull me in like a shepherd. Scratch my itch like a needle on a record. Full of life like a man going to Mecca. Sky high like an eagle up soaring. I speak low but I'm like a lion roaring. Baritone like a Robeson recording. I'm giving thanks for being human every morning. Morning. Because the streets are alive with the sound of boom-ba. Can I hear it once again? Boom-ba. Tell your neighbor, tell a friend. Every box got a right to be booming. Because the streets are alive with the sound of boom-ba. Can I hear it once again? Boom-ba. Tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be booming. We resist the negativity, we keep it at a distance. Call for backup and I give you some assistance. Like a lifesaver deep in the ocean. Stay afloat here upon the funky motion. Rock and roll upon the waves of the season. Hold your breath and your underwater breathing. To be rhyming without a real reason is to claim but not to practice a religion. If television is the drug of the nation, satellite is immaculate reception. Beaming in, they can look and they can listen. So you see, don't believe in the system to legalize you or give you your freedom. You want rights? Ask them, they'll read them. But every flower got a right to be blooming. Stay human, because the streets are alive with the sound of boom. Can I hear it once again? Tell your neighbor, tell a friend. Every box got a right to be booming. Because the streets are alive.
Michael Franti dans C'est pas du vent sur RFI. Aujourd'hui, la nouvelle politique environnementale des États-Unis avec Claude Henry, président du conseil scientifique de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Un virage à 180 degrés, donc Claude Henry annoncé très tôt, dès le mois de novembre, par Barack Obama en Californie, à la surprise générale, on peut le dire. Alors, il a annoncé à la fois une nouvelle économie verte pour les États-Unis et une reprise des négociations au niveau international sur la question du climat.
Et ce nouveau positionnement a très vite été confirmé par le choix de son équipe avec des personnalités fortes et reconnues pour leur engagement sur ces questions, comme le ministre de l'énergie Stephen Chu, lauréat du prix Nobel de physique, très engagé sur la question climatique. Claude Henry, que pensez-vous de cette nouvelle équipe?
Elle est très impressionnante, pas seulement sur le papier. Elle manque peut-être d'expérience politique, sauf pour celle qui, en quelque sorte, est la tête de liste de l'équipe, qui est Carole Bruner, qui coordonnera à la Maison-Blanche même, pas loin du bureau du président, tout ce qui est politique environnementale, climatique, énergétique. Elle est certainement moins... Sa nomination a certainement moins frappé que celle de Stephen Chu, mais elle est au moins aussi importante. Il ne faut pas oublier qu'elle a été, pendant presque toute la présidence Clinton, la ministre de l'Environnement du président Clinton. Elle a une très très forte expérience, est une très forte personnalité, et qui, à la fois sur le plan personnel et sur le plan politique, ne peut pas se laisser manipuler.
Alors Stephen Chu, tout le monde se réjouit de sa nomination. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle?
J'en suis persuadé.
Oui.
Il a un problème avec l'éthanol, c'est vrai, les biocarburants de première génération. Je ne sais pas dans quelle mesure Obama lui-même n'en a pas un, parce qu'Obama a été quand même d'abord lancé par son succès aux primaires dans l'Iowa, et l'Iowa c'est le principal producteur d'éthanol. Alors est-ce qu'Obama saura, comme tout bon homme d'État doit savoir le faire, répudier et ne pas être reconnaissant vis-à-vis de ses premiers partisans, c'est nécessaire du point de vue de l'environnement.
Mais c'est d'abord un scientifique très préoccupé des questions de climat. Le climat est
vraiment... Le chou, vous voulez dire?
Chou est vraiment...
Il est très préoccupé, mais il est par le biais de l'énergie. C'est un homme qui, après avoir eu le prix Nobel avec un Français d'ailleurs, Claude Corentin-Nouji, du Collège de France, sur des problèmes de physique atomique qui n'ont rien à voir, il s'est complètement investi sur les énergies alternatives. Et il a complètement réorienté le très grand laboratoire de Berkeley sur les énergies alternatives. Je dis alternatives parce que c'est pas nécessairement renouvelable. C'est aussi l'énergie nucléaire. Donc il n'est pas un adversaire loin de là.
Alors la grande question, c'est évidemment de savoir quels seront les changements profonds au niveau national. Hein, quelle va être la politique nationale des États-Unis. Mais je vous propose d'écouter un reportage qui a été fait au Grand Salon de l'Automobile de Détroit, qui a eu lieu la semaine dernière. General Motors en a profité pour lancer sa toute nouvelle voiture électrique. Un reportage de Sylvain Biville qui en dit long sur la mentalité américaine et où on en est.
Ladies and gentlemen, I present the revolutionary Chevrolet Volt.
Une voiture révolutionnaire selon General Motors. La Chevrolet Volt, premier véhicule tout électrique du géant américain, devrait être en vente dès l'année prochaine. Comme GM, tous les constructeurs se lancent dans la voiture verte en espérant conjurer ainsi la grave crise du secteur. Mais les Américains sont-ils prêts à brancher leur voiture tous les soirs sur une prise électrique? Il y a bien quelques écolos purs et durs comme Karen.
Si la voiture électrique ne triomphe pas, la Terre va disparaître. C'est aussi simple que cela.
Mais pour beaucoup d'autres, comme Brian, c'est difficile de renoncer aux grosses cylindrées.
Je veux une voiture économe, mais je veux aussi qu'elle soit puissante. Si General Motors propose les deux, une voiture 4x4 et électrique, d'accord. Mais on ne veut pas laisser tomber nos 4x4.
Les constructeurs ne sont d'ailleurs pas prêts, eux non plus, au tout électrique. John Lochner de General Motors.
La Volt ne va pas tout changer en une nuit parce que General Motors, c'est plus qu'un seul produit. Mais elle préfigure, selon nous, ce à quoi vont ressembler les 100 prochaines années.
Le discours est encore plus prudent chez Chrysler, qui a présenté 3 prototypes de véhicules électriques au salon de Détroit. Mais quand on demande à Frank Clegane, le vice-président de la société, s'ils seront commercialisés un jour, il botte en touche.
C'est la question que tout le monde me pose, mais je ne peux rien vous dire. Nous n'avons pas encore annoncé de date, ni même si nous allons produire ces véhicules. Nous travaillons encore sur la technologie.
Les 3 grands de Détroit sont au bord de la faillite. General Motors et Chrysler ont déjà reçu 10 milliards de dollars du gouvernement fédéral. Et si, dans ce contexte, ce soudain engouement pour l'électrique n'était qu'une vaste opération de communication, à destination notamment du président Obama, qui ne cache pas son intérêt pour les voitures vertes. L'analyste Karl Brouwer du site Edmonds.com n'est pas loin de le penser.
Je m'interroge un peu sur cet intérêt pour l'électrique. J'ai toujours des doutes sur la technologie, sur le coût, sur la capacité de production. Est-ce qu'on aura les réponses dans 2 ans ou dans 7 ans? En tout cas, on n'y est pas encore. On peut dire que tous ces efforts sont faits pour impressionner Washington plus que pour parvenir de manière réaliste à un produit rentable à terme.
Sylvain Biville, Détroit, RFI.
C'est pas du vent. Claude-Henri, est-ce que, à votre avis, les Américains sont prêts à changer leur mode de vie? George Bush avait dit que le train de vie des Américains n'est pas négociable.
Probablement oui, mais avant d'y répondre de façon plus directe, je voudrais rebondir sur le nom de votre émission. Ce que racontent les gens de Détroit à propos des véhicules électriques, et même ce qu'ils donnent l'impression de faire, c'est du vent. Mais ça ne veut pas dire que la voiture électrique n'a pas d'avenir, et d'avenir proche, même aux États-Unis. Et si vous vous tournez vers ce que vont faire une entreprise américaine qui s'appelle Better Place, et qui est californienne, bon, c'est pas totalement étonnant, avec Renault, Nissan et le producteur japonais de batterie NEC, eux ont compris qu'on ne vend pas une voiture électrique comme une voiture à essence. D'autant plus que la voiture à essence bénéficie de tout un réseau de services. Eh bien, il faut offrir le réseau de services avant même d'offrir les voitures. Et c'est ce qu'ils vont faire ensemble en Israël, au Portugal et au Danemark. Et vous n'aurez pas à rebrancher tous les soirs votre voiture électrique. Vous pourrez échanger vos batteries dans un réseau très dense de réparation, d'échange et de recharge, où d'un instant à l'autre, vous pourrez repartir avec votre voiture électrique.
Alors, nous attendons le président Obama sur de nombreux changements. Alors, est-ce qu'il aura les moyens de ses ambitions ?
Pas de toutes. Mais je ne crois pas qu'il renoncera aux ambitions énergétiques et climatiques. Parce qu'il les voit comme l'autre face de ses ambitions de remettre en route l'économie américaine. La face innovante, la face tournée vers l'avenir, la face qui sortira de la crise. Donc ça, on n'y renoncera pas.
Et alors, Obama a annoncé aussi qu'il comptait, Barack Obama, hein, c'est quand même pas un copain de classe, Barack Obama a annoncé qu'il comptait jouer un rôle clé dans le combat mondial contre le réchauffement climatique. Donc l'Amérique veut jouer un rôle de leader. Est-ce que ce sera suffisant pour amorcer un véritable virage au niveau mondial, pour entraîner encore les réticents ?
À une condition, oui. C'est ce qu'indique d'ailleurs le volume Regard sur la Terre que l'IDRI et l'Agence française du développement présentent ce soir au public. Cette condition, c'est pour que ce que Mme Clinton a dit que l'Amérique ferait diplomatiquement, elle l'a dit devant le Sénat il y a quelques jours, reprendre le leadership, il faut qu'elle sache entraîner, peut-être partager ce leadership avec la Chine. Il y a une chose qu'on oublie trop souvent. C'est pas Bush qui a enterré Kyoto. C'est le Sénat des États-Unis sous l'administration Clinton à 95 voix contre zéro. Un des plus évidents votes que le Sénat ait jamais passé. Pourquoi ? Quelle était la motivation ? Quel était le motif ? Nous avons dans Kyoto des obligations contractuelles. La Chine est l'Inde dans nos bras. Tant que ce sera le cas, il n'y aura pas de ratification par les États-Unis. Je crois que ça reste vrai. Ça restera vrai sous l'administration Obama. Et je crois qu'ils ont raison. La Chine en particulier est devenue un tel émetteur, aussi important que de gaz à effet de serre que les États-Unis, 25% de la totalité du monde chacun, qu'il faut qu'il y ait des contraintes. Il faut donc qu'il y ait un grand marché passer entre les États-Unis et la Chine, peut-être en dehors même des négociations formelles, un grand marché où, dans une certaine mesure, les États-Unis échangeraient des contraintes acceptées par la Chine contre des transferts technologiques vraiment importants. Le Premier ministre chinois, il semble prêt.
Claude Henry, merci. Merci pour toutes ces explications.
On vous réinvitera dans une prochaine émission quand on aura un petit peu de recul sur la politique de Barack Obama.
Il faudra voir maintenant.
C'est pas du vent @rfi.fr.
Et comme tous les jours, C'est pas du vent s'achève par un billet d'humeur d'une personnalité de l'environnement. Aujourd'hui, c'est avec Serge Auru, directeur de WWF France.
Voilà qu'un aéronef américain avale de pauvres oies au-dessus de New York et se transforme heureusement en hydravion. Démonstration évidente que la génétique aéronautique et terrestre ne doit pas être modifiée. Nous sommes en janvier 2009, en pleine Obamania. Nous vivons les rafales de vœux sincères et répétitifs, malgré les guerres et la crise provoquée par ceux qui ont joué à la roulette russe avec l'économie mondiale. Malgré le froid, les sans-domicile fixes, le péril climatique, des licenciements, oulala, je cesse immédiatement la litanie du réel dans ma première chronique pour C'est pas du vent. Mon autre rayon d'espoir avec le formidable avènement des réseaux sociaux sur Internet. Et je vous le promets, je n'annoncerai pas la fin du monde. Mais la naissance, il y a quelques semaines, de planeteattitude.fr, qui est le premier réseau social francophone dédié à l'écologie et la protection de notre environnement, immédiat et lointain. Dans ce caravansérail planétaire, on échange, on lit, on rit, on dévore photos et vidéos, et c'est gratuit. On écrit, on forum dans ce lieu de pollinisation des idées, ouvert à toutes et tous. Pour s'unir, il faut se savoir différent, nous soufflait Teilhard de Chardin. On surfe solidaire en patriote de la planète et l'on comprend ainsi que nous serons des centaines de milliers demain à militer sur nos claviers pour un monde durable, équitable. Pour notamment dénoncer les dérapages publicitaires où l'on voit à la télévision de superbes pubs utilisant fallacieusement l'argument environnemental. Vous pourrez aussi participer à la campagne « Oui au bio dans ma cantine » qui verra les parents d'élèves et les enfants demander à leur municipalité en juin prochain d'avoir des produits issus de l'agriculture biologique dans leur cantine scolaire. Et dès maintenant, préparons ensemble Earth Hour. 60 minutes pour la planète. Le samedi 28 mars 2009, nous serons plus d'un milliard dans le monde à éteindre nos lumières entre 20h30 et 21h30 pour faire une ovation à la vie. Une heure sans lumière pour retrouver l'âge des lumières, pour éviter de vivre entre Mad Max et l'abbé Pierre, comme le dit si bien Bernard Lavilliers. Cette mobilisation, cette effervescence en réseau connecté est une opportunité formidable pour orienter la trajectoire de notre humanité vers la solidarité envers le vivant, notre vital. Je vous le dis, nous ne sommes pas des babas ou des bobos, nous sommes uniquement des humains conscients dont la volonté est d'offrir à nos enfants une planète vivante. Dans cette communauté électronique, nous construisons les ponts de l'écologie et démontons les murs de nos oppositions pour mieux vivre ensemble. Notre credo, notre choix, est de préférer la lucidité écologique en lieu et place de la mondialisation des égoïsmes. Alors nous vous attendons sur planeteattitude.fr, cette mosaïque humaine qui fait du buzz à oreille, de la palabre en web, qui nous permettra de rester connectés au jardin planétaire. À mardi prochain.
C'est pas du vent, c'est fini pour aujourd'hui et demain nous ferons le point sur les enjeux de l'énergie dans le monde.
Rendez-vous donc demain, même planète, même heure et tout de suite un nouveau journal.